France Musique. Musicopolis. Marie Fell, star de l'Académie royale de musique. C'est seulement en 1993, à la faveur d'une vente aux enchères, qu'on a découvert le tableau de Quentin de la Tour représentant la chanteuse Marie Fell. Il avait disparu depuis plus de 200 ans et on ignorait même son existence. Le peintre et le modèle ont été très liés et on supposait bien qu'il l'avait peinte à de nombreuses reprises. Mais jusque-là, on connaissait seulement un petit pastel, étude de visage pour un tableau perdu. À présent, grâce à cette récente découverte, nous faisons plus ample connaissance avec la musicienne. Elle est assise face à nous, le bras gauche, accoudé à un bureau sur lequel est posée une partition. Son bras droit est posé sur ses genoux, un crayon à la main. Elle va sans doute noter quelque chose sur le papier à musique. Elle regarde le peintre en souriant de la bouche et des yeux, comme si elle s'apprêtait à lui dire une plaisanterie. Un parchemin à moitié déroulé montre un petit amour joufflu qui la regarde intensément. Cette plaisanterie que paraît vouloir dire la chanteuse Marie Fell sur son portrait, c'est le peintre qui nous la révèle en toutes lettres. Il nous permet de lire le titre de la partition sur le bureau. Elle s'appelle « Les yeux de l'amour ». Et le petit cupidon joufflu qui la regarde tient sa flèche comme un pinceau. C'est lui, le peintre, qui est amoureux. Si nous avons, grâce à Quentin de la Tour, une idée de la tournure physique de la chanteuse Marie Fell, en revanche, pour ce qui est de sa voix, nous ne pouvons nous fier qu'à des descriptions qui paraissent bien vagues, mais qui vont toutes dans le même sens, remarquez. Suivant les chroniqueurs, sa voix est « brillante et légère » ou « légère et sonore » ou « légère et parfaite en son genre » ou encore « charmante, pure, argentine ». Bref, c'est un timbre d'argent. Voici, grâce à Sandrine Piau, peut-être comment on peut imaginer la voix de Marie Fell, brillante, légère, sonore et argentine. Une voix dont je confierai à plusieurs chanteuses le soin de vous donner une idée. Mais à présent, faisons plus ample connaissance avec elle par sa biographie. Marie Fell, F-E-L, est née en 1713, 2 ans avant la mort de Louis XIV donc. Ce qui fait qu'elle a grandi pendant la régence du duc d'Orléans et la jeunesse de Louis XV. Elle est née à Bordeaux, dans une famille de musiciens. Son père est organiste, sa mère chanteuse. Elle a aussi un frère aîné chanteur. elle a certainement reçu les bases de sa formation musicale à la maison, comme ça se passe le plus souvent chez les musiciens. À 21 ans, elle est assez avancée pour être recrutée par l'intendant des menus plaisirs du roi, qui l'invite à venir chanter à Paris. Elle fait ses débuts en octobre 1734 à l'Académie royale de musique dans le rôle de Vénus, dans le prologue d'un opéra de Louis de Lacoste, Philomèle. Trois jours après avoir débuté à l'opéra, la demoiselle Fell est entendue pour la première fois dans un motet de Delalande au concert spirituel, où le Mercure de France nous informe qu'elle chanta pour la première fois différents récits avec beaucoup d'applaudissements. La première saison de Marie Fell à Paris se déroule entre l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'opéra, et le concert spirituel. Ce sont les deux endroits où une chanteuse peut espérer faire carrière à Paris, mais qui demandent bien sûr des qualités un peu différentes. Au concert spirituel dominent les grands motets, avec solistes et chœurs, en latin bien sûr, dans lesquels une certaine dévotion est demandée. Comme l'indique l'adjectif « spirituel », on n'est pas là dans une réjouissance profane et extravertie. Même si les moyens sont souvent les mêmes, avec autant de vocalises à l'italienne, on n'est tout de même pas au théâtre. Pour sa première année à Paris, Marie Fell est bien accueillie et le Mercure constate qu'elle est de plus en plus goûtée. On la voit dans trois opéras, dans les petits rôles de débutante et dans une dizaine de séances du concert spirituel où elle est reçue avec applaudissements et où on remarque qu'elle chante avec autant de justesse que de précision. Il est d'autant plus étonnant dans ces conditions qu'elle prenne un congé et qu'elle quitte l'opéra avec son frère au mois de juillet 1735. L'administration de la Maison du Roi est fort fâchée et rappelle que les chanteurs doivent donner un préavis de 6 mois avant de pouvoir laisser leur poste. Selon son biographe Jacques-Gabriel Prodhomme, Marie Fell doit avoir de puissantes protections puisque l'année suivante, elle revient et avec de meilleurs appointements. À la même époque, elle commence à chanter dans les concerts chez la reine. Les concerts chez la reine, comme leur nom l'indique, ont lieu chez la reine. Marie Leczinska est une reine assez effacée, mais elle aime beaucoup la musique et la peinture, et elle tient chez elle à Versailles, à Marly ou à Fontainebleau, une sorte de salon dans lequel on entend, juste avant ou juste après, les mêmes concerts qu'à Paris. En deux ou trois séances, la reine, avec son petit cercle d'amis, peut ainsi écouter les opéras qu'elle n'ira pas voir à l'Académie royale de musique. C'est ainsi qu'en février 1736, elle applaudit « Les Indes galantes » de Rameau, qui seront données à Paris au mois de mars. Marie Fell y chante le rôle principal de la première entrée. Avec les Indes galantes, Marie Fell voit sa première collaboration avec Jean-Philippe Rameau, compositeur et théoricien célèbre, mais encore assez nouveau dans l'art lyrique. Les Indes galantes est seulement son deuxième opéra. Cependant, à l'Académie royale de musique, Marie Fell va rester assez longtemps attachée au petit rôle. Une guerrière, une nymphe dans Tancrède de Campra, une argienne dans le ballet de la paix de Rebelle et Francoeur, une matelote dans Les Amours des dieux de Mouret, une phrygienne dans Dardanus de Rameau. Je m'arrête là, vous avez compris. En novembre 1740, enfin, elle est Sangaride, le premier rôle féminin dans Attis de Lully.
Tourmente cachée, une si belle flamme.
Vers le milieu des années 1740, Marie Fell est devenue l'une des premières chanteuses de l'Académie royale de musique. Elle a les rôles principaux dans les reprises, et lorsqu'il s'agit de création, dès lors, les compositeurs écrivent pour elle. C'est ainsi qu'elle est Sylla, dans Sylla et Glaucus de Leclerc, ou Chloé, dans Daphnis et Chloé de Boismortier. Le 4 février 1749, elle incarne la folie dans le nouveau Platé de Rameau. En 1752, un contemporain de Marie Fell écrit ceci dans le siècle littéraire de Louis XV. Le nom de Mademoiselle Fell inspire une joie secrète. On se représente sur le champ une actrice merveilleuse. On se dit avec satisfaction, la voix de Mademoiselle Fell est d'une précision admirable et d'une légèreté singulière. On fait plus, on vole à l'opéra lorsqu'elle chante. On la trouve toujours nouvelle, toujours brillante. Il n'y a point d'opéra du grand Rameau que cette fée n'embellisse. Et je juge, à l'air satisfait dont elle chante sa musique, qu'elle lui donne la préférence sur tout autre. On ne fait ordinairement usage de son feu et de sa vivacité que pour ce qui nous plaît. Le bon goût que montre en cela Mademoiselle Fell est une raison de plus pour la faire adorer des véritables connaisseurs. De Marie Fell semble se faire sans nuages, sauf parfois un arrêt dû à une mauvaise santé. Marie Fell n'est pas mariée, ce qui n'est pas rare pour une actrice. Elle a des liaisons, mais successives, jamais simultanées, ce qui la fait regarder comme assez sage. En 1752, l'inspecteur de police Meunier dresse un état des actrices de l'opéra avec leurs âges et demeures et les noms de leurs entreteneurs. Pour Marie Fell, dans la colonne âge, il note 35, dans la colonne domicile, rue Saint-Thomas du Louvre, et dans la colonne Amants et Greluchons, vit avec Monsieur de Cahuzac. Une autre note donne quelques précisions sur le physique de la demoiselle, qui ne correspond pas du tout d'ailleurs avec le portrait de Quentin de la Tour. Je cite « Elle est petite, brune, la peau noire, généralement laide. Elle n'en veut rien croire cependant. Elle a la voix belle. » On assure qu'elle va se marier avec Monsieur de Cahuzac. Ils demeurent à côté l'un de l'autre et font ordinaire ensemble. Monsieur de Cahuzac travaille pour Monsieur Rameau. Il a fait les paroles de l'opéra de Zoroastre. Thank you. À la fin de 1758, après avoir créé de nombreux rôles, notamment celui de Colette dans Le Devin du village de Jean-Jacques Rousseau, Marie Fell quitte l'opéra. Parmi ses élèves, elle a formé et choisi Sophie Arnoux pour prendre sa suite. Mais Marie va continuer à se faire entendre au concert spirituel, chez la reine et chez ses amis, avec toujours autant de succès. Depuis le milieu des années 1750, Marie Fell a noué des liens intimes avec le peintre Quentin de la Tour. Sans être mariés, ils vivent dans des logements très proches. Dans les années 1770, l'ancienne vedette est pensionnée par l'administration de l'opéra et par la reine. Elle a sans doute économisé et elle achète une demeure à Chaillot, à leur village à l'ouest de Paris, où elle a des arbres, des vignes et des carrés de légumes. Quentin de la Tour viendra vivre auprès d'elle quelque temps avant d'être emmené par sa famille dans un état proche de la folie. Après 1790, Marie Fell sera privée de sa pension royale, mais elle pourra conserver sa maison et elle vivra ses vieux jours à Chaillot, où elle mourra dans le souvenir de son ami le peintre. Accordez vos sons et vos pas, air de Parthénope dans Les Surprises de l'amour de Jean-Philippe Rameau. C'était Caroline Sampson, soprano, l'ensemble Ex Cathedra dirigé par Jeffrey Skidmore. Ils ont enregistré tout un disque sur le répertoire de Marie Fell. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Thibault pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.